Bien, merci beaucoup, à la fois pour la qualité de l'exposé et pour le fait aussi de l'avoir fait tenir exactement dans le temps imparti, ce qui nous laisse un temps tout à fait, non pas suffisant, mais intéressant pour la discussion. Je me sens un petit peu mal pris parce que je suis tenté de vous adresser un certain nombre de questions, d'objections, mais je ne veux pas non plus, justement, priver la salle de son droit de parole. Je vais peut-être vous poser une question et puis me permettre de développer une objection parmi d'autres pour vous donner une idée de l'esprit dans lequel personnellement on était amené à débattre, et j'espère qu'on aura un jour le temps de le faire. Je serai amené à le faire. La question serait tout simple de savoir si vous jugeriez sans doute inutile à certains égards d'ajouter le principe de laïcité dans la Constitution, mais avez-vous quelque chose contre le fait de l'ajouter, parce que ça n'est pas forcément la même position. Alors, sur nos éléments de désaccord, je vais en donner un exemple, c'est votre usage de la comparaison avec la France, qui vraiment ne me convainc même pas du tout. Ce que vous avez très bien montré, ce n'est pas, à mon avis, que la Belgique est un État pleinement laïque. J'enseigne à mes étudiants, il y en a quelques-uns qui sont là et peuvent en témoigner, que c'est un État d'essence laïque. Ça ne veut pas dire, à mon avis, qu'elle est pleinement laïque, mais je ne pense pas que vous nous ayez montré d'abord qu'elle est pleinement laïque. Je crois que vous nous avez montré surtout que la France ne l'est pas pleinement. Mais ça, nous le savions, parce que la France est un État laïque hérité aussi d'une histoire et d'une géographie et qui n'a pas pu, voulu, imposer le principe de laïcité partout et en particulier à ses frontières, parce qu'il est quand même tout à fait caractéristique que les exceptions notables que vous avez extrêmement bien résumées sont toutes des exceptions aux frontières. Certaines, et c'est là que j'ai vraiment un problème dans votre usage de la France, certaines exceptions ne sont pas du tout des exceptions au principe de laïcité. Quand vous évoquez le fait que la France organise des aumôneries catholiques et autres dans les hôpitaux, dans les prisons, et il y en a une aussi à l'Assemblée nationale, c'est une conséquence directe du principe de laïcité, c'est-à-dire de la liberté de conscience, et donc du devoir que l'État français en tant que laïque s'arroge, s'astreint à respecter, qui est de garantir l'effectivité de cette liberté de conscience et de culte pour ceux qui, étant dans un hôpital, dans une prison ou dans une caserne, ne peuvent pas se déplacer librement pour aller assister à un culte ou voir leur conseiller spirituel. Donc ça n'est pas une entorse à la laïcité, c'est au contraire une conséquence. Sur la question du financement des cultes, de la reconnaissance des cultes, vous avez monté en épingle les exceptions et les anomalies apparentes. Il y a un ministre qui a les cultes en charge, il y a des relations avec ces cultes, il y a des formes de financement. Mais en faisant bon marché, en passant presque par pertes et profits, le principe de base, qui est bien celui de la séparation, et l'article 2 de la loi de 1905, l'État ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Donc, je pense qu'il faut quand même donner sa place au principe de base et puis sa place nettement plus congrue aux exceptions. De la même manière que vous évoquez les lois sur le port de signes convictionnels à l'école publique ou dans les administrations, vous nous laissez entendre que la vraie France, ce serait la France d'avant l'adoption des lois de 2004 et de 2006. Là où d'autres vous diraient, c'est bien parce qu'elle est un État qui se veut laïque, qu'elle a été amenée à clarifier la question et à un certain moment à décider que tous les fonctionnaires doivent avoir une apparence neutre et que les élèves aussi, pour lutter contre le prosélytisme, doivent s'abstenir de porter des signes convictionnels ostensibles. Sur les cours philosophiques à l'école publique, vous n'avez pas évoqué là le parallèle avec la France, parce que là, on voit bien le contraste entre le régime français et le régime belge. Vous évoquez le fait que la France met gratuitement à disposition des lieux de culte pour le culte catholique. C'est un produit de l'histoire, de la nationalisation, de la confiscation des biens de l'Église, et une condition pour que la loi de 1905 ne mette pas la guerre civile au pays. Donc, là, vraiment, sur ce point-là, j'ai de nombreux désaccords, mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Donc, je me permets de vous en signaler quelques-uns et de vous donner l'occasion d'y répondre, mais surtout peut-être, ou aussi vous inviter à répondre à la question, est-ce que vous avez une objection quelconque, une crainte quelconque à l'idée que la notion de laïcité soit inscrite dans la Constitution belge, laïcité politique, bien entendu.
Je commencerai par la fin. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre.
Oui, avec plaisir.
À votre question, la réponse est assurément non. Je n'ai aucun problème de principe avec l'inscription du mot laïcité dans la Constitution. En d'autres termes, et c'est vrai que il y a des intervenants de ce débat qui élaborent ou produisent une argumentation pas si éloignée que ça de la mienne, mais pour arriver à la conclusion qu'il ne faut surtout pas inscrire le mot laïcité dans la Constitution. Mais vous l'avez vu, dès lors que je suis très à l'aise par rapport à ce que, selon moi, a vocation à être le principe de laïcité, pourquoi aurais-je une difficulté avec l'inscription du mot laïcité dans la Constitution ? Donc, très clairement, aucun désaccord, aucun problème avec ça. Je considère que j'ai en partie failli auprès de vous sur un pan de mon argumentation si je vous ai laissé penser que je considère que la Belgique est un État parfaitement laïque. Les différents éléments que j'ai mis en évidence ne font que montrer que ça n'est pas du tout mon point de vue non plus. Loin de moi l'idée de penser que la Belgique est à un stade abouti de sa laïcité. Absolument pas. Tant au niveau de la reconnaissance qu'au niveau du financement, qu'au niveau des cours philosophiques dans l'enseignement officiel, qu'au niveau des règles protocolaires, il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées. Donc, je veux que nous soyons d'accord sur notre accord, en réalité, là-dessus.
Vous allusiez au fait que vous aviez démontré que la Belgique était fondamentalement laïque.
Voilà.
Et ça, pas pleinement, mais fondamentalement.
Ça. Ce qui est donc fort différent.
Oui, tout à fait.
Et effectivement, je continue à être très clair sur ma conception par rapport à la Belgique. Effectivement, je considère que la Belgique est un État fondamentalement laïque. Et je conçois fort bien qu'un des points d'achoppement fondamentaux, un des points de désaccord fondamentaux, c'est le fait même qu'il puisse y avoir une reconnaissance et un financement. Mais dès lors que je ne considère pas que ça, en tant que tel, c'est une entorse au principe de laïcité, fatalement, nous avons un désaccord sur cette dimension. Ce qui, pour moi, est déterminant, ce n'est pas qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas, pour le dire avec d'autres mots, la France, dans sa théorie, dont on voit que ça s'écarte de sa pratique, la France, si elle était parfaitement cohérente par rapport à l'article 2 de la loi de 1905, serait pour moi aussi un État fondamentalement laïque. Donc ça n'est pas pour moi le fait qu'il y ait reconnaissance plus financement ou absence de reconnaissance plus financement qui est l'aiguillon. L'aiguillon, c'est la non-ingérence réciproque entre les deux. Donc, vous pourriez avoir l'exemple de la laïcité française et l'exemple de la laïcité belge. Tous deux sont, pour moi, de bons exemples de ce qu'on pourrait faire en termes d'application de la laïcité. Ce n'est pas parce que d'un côté, on ne reconnaît rien, on ne finance rien, qu'on est au-dessus ou en dessous, et pour la Belgique également. Alors, évidemment, toute la dimension de la discussion qui tourne autour des signes convictionnels, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière et d'un débat contradictoire qui occupe largement la scène médiatique. Oui, c'est vrai que je suis de ceux qui considèrent que une laïcité correctement appliquée ne peut pas produire de l'exclusion. Une laïcité correctement appliquée, selon moi, ne peut pas se faire en omettant une de ces dimensions fondamentales qui est celle de la non-discrimination, qui est celle de la consécration de la liberté religieuse. Alors, il est évident que quand on parle de la liberté religieuse, il y a des livres et des livres sur cette dimension. Quand je dis ça, généralement, mes contradicteurs me disent « Mais enfin, vous savez bien que la liberté religieuse, c'est un droit qui n'est pas plus absolu que d'autres droits. » Certes. Il est en effet vrai qu'en démocratie, on peut limiter la liberté religieuse, mais pas n'importe comment. Il faut des objectifs légitimes et il faut que le critère de proportionnalité soit satisfait. Eh bien, je suis de ceux, mais c'est ça le débat et c'est ça le désaccord, qui considèrent que le principe d'une interdiction pure et simple, c'est disproportionné. Et donc, c'est pour ça que je considère que ça va trop loin par rapport à ce que consacre la liberté religieuse. Je suis parfaitement d'accord avec vous dans une série d'exemples que je donne par rapport à la France. Je ne suis pas en train de dire que le fait, par exemple, de permettre des services d'aumônerie c'est attentatoire aux principes de laïcité. Je dis que c'est utilisé en Belgique comme un argument pour en récuser le caractère laïque. Et je le récuse. Je dis que ça n'est pas un critère. Et je dis que si c'était un critère, mais soyez cohérent, alors considérez que c'est un critère aussi pour la France. Et je suis frappé de constater que la plupart des intervenants visibles dans ce débat public-là affichent une indifférence manifeste par rapport à tous les différents éléments que j'ai cités par rapport à la France. C'est ça que j'essaye de mettre en évidence. Alors, on pourra aussi se mettre d'accord sur notre désaccord sur un point très précis, à savoir que je pense que ces différents éléments en France sont largement méconnus. Je pense qu'on est très loin d'une situation où tout le monde connaît ces différents volets de la situation de terrain en France. Mais donc, en France aussi, il y a des améliorations qui sont possibles. En France aussi, on pourrait être plus égalitaire, on pourrait connaître moins d'entorses par rapport à une laïcité cohérente et correctement appliquée. Mais je constate qu'on connaît mal la Belgique, mais qu'on connaît aussi mal la France. Et le fait d'éclairer l'un avec l'examen de l'autre est pour moi un outil pédagogique parfaitement pertinent et surtout parfaitement utile dans la clarification de ce débat autour de ces questions. Je pense avoir répondu.
Oui, tout à fait. Et donc, je donne la parole à la salle. Je ne doute pas qu'il y aura des demandes. Oui, Xavier Delgrange.
Je voudrais revenir sur un point, c'est quand vous dites que laïcité égale neutralité. Et là, j'ai quelques difficultés quand même à lire simplement le texte de la Constitution, parce que le mot neutralité figure dans la Constitution, à l'article 24. Et là, si je me souviens bien, on parle de respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses. Donc c'est bien plus large. La neutralité, quand on l'exige en matière d'enseignement, dépasse clairement le cadre de la liberté religieuse. C'est aussi les convictions politiques, etc. Et ça, je pense que c'est quand même important à souligner. Et dans le débat, inscrire la laïcité dans la Constitution et pas la neutralité. Et donc ça veut dire que l'État pourrait ne pas être neutre politiquement. Il y a quand même toute une série de questions qui méritent d'être posées de ce point de vue-là. Et je ne pense pas que ce soit des synonymes. Et par ailleurs, alors, la Belgique est peut-être un État laïque, mais ce n'est pas un État neutre. Ça, c'est quand même un gros problème. Ce n'est pas un État neutre, vous l'avez dit, en matière de financement des cultes et de reconnaissance des cultes. C'est un système totalement discriminatoire. Il faudrait établir des critères objectifs. Ce n'est pas non plus un État neutre quand il s'agit de subventionner l'enseignement. On sait très bien la toute-puissance du CEGEC qui lui permet d'être largement subventionné. Les autres cultes rament, hein, sauf le culte israélite pour des raisons historiques, où là, il y a des discriminations positives qui sont mises en place, qu'on peut certainement justifier. Le problème, c'est que c'est en dehors des textes.
Si je devais résumer votre premier propos, ce serait de dire que laïcité et neutralité ne sont pas synonymes, mais que laïcité et neutralité en matière philosophique et religieuse pourraient être des synonymes. C'est un point de vue que je peux rejoindre en partie. Mais j'ai tendance à croire que le principe de laïcité n'exclut pas nécessairement la dimension politique. C'est aussi simple que ça. Dans la définition que je revendique du principe de laïcité, la laïcité va plus loin que la dimension purement religieuse pour moi. C'est ce qui explique que nous ayons un désaccord là-dessus. Mais si le désaccord porte sur cet aspect-là et qu'on peut l'évacuer en considérant que laïcité égale neutralité en matière religieuse et philosophique, c'est déjà très bien. Votre deuxième question, oui, le plat laïcité en Belgique au regard du mécanisme de reconnaissance et de financement n'est pas parfait. De là à dire que le système est totalement discriminatoire, c'est un pas que moi je ne franchis pas. Je considère que l'absence d'assises constitutionnelles aux critères de reconnaissance est un problème. Ce problème doit être rectifié, et c'est pour ça que dans mon livre, j'appelle à une révision de la Constitution pour que la cause soit également constitutionnalisée, parce que l'effet est constitutionnalisé. Et non, il y a ici quelque chose de fondamentalement problématique. Mais je constate aussi que le jeu des reconnaissances successives ne se sont pas faites indépendamment de toute forme de critères. Il y a des critères identifiables dans cette pratique administrative. On ne peut pas simplement dire qu'il n'y en a pas. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une amélioration possible, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a rien et que c'est dans ce rien-là que la reconnaissance se fait.
Merci. Michel Leroy.
Merci. Je vais faire trois observations, en plus le minimum à trois. D'abord, j'ai quand même été un petit peu surpris d'entendre que la laïcité philosophique était un non-sens et que vous n'avez pas vocation à avoir des représentants. Je crois qu'à l'origine de cette proposition, il y a une équivoque terminologique. Que quand on parle de laïcité, le terme prend un sens tout à fait différent selon qu'on l'applique à des institutions ou selon qu'on l'applique à des personnes. Les institutions laïques, c'est ce dont on a entendu parler dans le gros de la conférence, hein, des pouvoirs neutres, impartiaux, respectueux des libertés, etc. Bon, à côté de ça, parmi les opinions philosophiques que peuvent avoir les gens, il y en a qui adhèrent à un culte, il y en a qui sont farouchement athées, qui sont agnostiques, ceux-là qu'on qualifiera de laïcs. Mais ça, c'est pas la laïcité de l'État, c'est la laïcité de personne. Et je pense que dans la dualité de sens, selon l'objet auquel on l'applique, il y a l'origine de pas mal deuxième observation, quand on dit qu'il n'y a pas de fondement légal, pas de fondement constitutionnel, pardon, à la reconnaissance du culte, qu'on ajoute tout de suite après, il y a quand même l'article 181. Bon, là, je crois qu'il faut quand même prendre la Constitution dans son ensemble. On est en présence ici de cette figure de style, je ne sais plus si c'est la métonymie ou la synecdoque, hein, en fait, cette figure de style qui consiste à désigner le tout par la partie, la cause par l'effet ou quelque chose comme ça. On reconnaît quand même le financement du ministère des cultes. Bon, ben, pour pouvoir appliquer cette disposition, il faut savoir ce qu'est un culte. Parce qu'on est bien d'accord que toute forme de croyance, il y a des dérives sectaires que personne ne songerait à les financer. On voit le problème, je ne pense pas, par exemple, de l'église de Scientologie actuellement. Hein. Bon, n'entrons pas dans les détails. Je crois que là, dans la Constitution, il me paraît qu'il y a quelque chose. Et alors, troisième remarque que je voudrais faire concerne ce paradoxe apparent, mais qui a une explication historique, qui fait que les professeurs des religions sont désignés par les autorités religieuses, mais pas pour les cours de morale. Mais attention, hein, ce système, il date du pacte scolaire, 1958, loi de 1959. À ce moment-là, en 1959, il n'y avait pas d'institution représentant le courant des personnes de conviction laïque. Le Centre d'action laïque, ils sont pendant flamand, l'Humanistisch Verband, ils ont été créés après 1967, et à la suite d'un événement bien précis, qui est l'incendie de l'innovation. Tout le monde connaît l'innovation ou une œuvre. Avant d'être le bâtiment actuel, c'était un très beau bâtiment d'ailleurs pour très bien de Ronta, et qui a brûlé en 1967, il y a plus de 300 morts. Et ce qui avait choqué les gens pas religieux, c'est que sur les 300 cercueils, on avait l'autorité qui croyait que ça avait choqué, c'est ce incident-là qui est à l'origine de la création du centre d'action laïque. Et oui, le système de désignation du professeur de morale, il n'a pas été revu à la suite de ça. On vit avec un héritage historique qui n'est peut-être pas tout à fait cohérent. On pourrait peut-être imaginer d'ailleurs que des professeurs du cours de morale laïque, comme ça, morale non professionnelle, soient désignés sous proposition d'un interlocuteur qui serait le centre d'action laïque ou quelque chose qui est lié à lui.
C'est le cas en Flandre.
Ah ouais, c'est le cas en Flandre. C'est le cas. Voilà, peut-être encore toute petite remarque. aussi une question de terminologie historique. Démocratique n'est pas dans la Constitution. Non. Allez voir les travaux du Congrès national. Démocratique, c'est aujourd'hui, c'est les hyper-gauchistes. Hein. On se méfiait des excès démocratiques. C'était péjoratif le terme démocratique en ce temps-là. Il y a quand même, hein, dans la Constitution, tous les pouvoirs viennent de la nation. Voilà. Si on traduit en termes aujourd'hui, ça veut quand même bien dire que le pays est démocratique. Je me limiterai à cela.
Merci.
Merci, professeur Leroy. Est-ce que la laïcité philosophique est un non-sens? Ça n'est pas que ce à quoi ça renvoie, c'est un non-sens. C'est le fait que ce qu'on nomme laïcité philosophique, ça comporte une définition très précise. L'article 4 des statuts du CAL donne une définition très concrète de ce qu'il faut comprendre par laïcité philosophique. Alors, mis à part le jusqu'au boutisme terminologique, est-ce que ça renvoie à l'athéisme, est-ce que ça renvoie à l'agnosticisme, est-ce que ça renvoie à l'indifférence, bon. Mais toujours est-il que ça renvoie à une conviction philosophique à part entière. Il est effectivement clair qu'une série d'intervenants considèrent qu'on peut appeler laïcité une conviction philosophique. Je ne suis simplement pas de ceux-là. Je considère que la laïcité ne devrait être que politique. Et donc je suis de ceux qui considèrent qu'il ne faut pas distinguer laïcité politique et laïcité philosophique. Il faut distinguer laïcité tout court et une conviction philosophique parmi d'autres. Mais ça n'est pas anodin. Nous avons ici un panel relativement divers. Il y a des panels dans lesquels je dois, moi, expliquer que laïcité n'est pas égale à athéisme. Je dois, moi, déconstruire, enfin, moi, c'est pas un moi avec un M majuscule, d'autres aussi, mais nous nous retrouvons à devoir expliquer que la laïcité, c'est quelque chose qui a vocation à protéger toutes les convictions philosophiques. Ça n'est pas contradictoire par rapport à une conviction personnelle, confessionnelle, dogmatique qu'on pourrait avoir. Vous faites une distinction entre les institutions laïques, mais qu'on soit clair aussi, le centre d'action laïque se pose comme le représentant du mouvement des citoyens laïcs. Donc les deux ne sont pas sans connexion l'un avec l'autre. L'un est aujourd'hui, il se considère et il est considéré comme le représentant de cette communauté convictionnelle-là. Et c'est là que je pense qu'il y a une confusion à laquelle il faut mettre un terme. Il faut faire échapper la laïcité à ce jeu des convictions philosophiques parce que c'est ça qui permettra d'en faire un bien commun dont tout le monde peut se revendiquer. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je suis un laïc musulman, bah, je considère donc qu'il y a des laïcs chrétiens, des laïcs juifs, des laïcs bouddhistes, confucianistes, et des laïcs athées, et des laïcs agnostiques. Et je pense, moi, que c'est cette clarification qui permet de dire ça. Deuxième point que vous avez soulevé, le jeu de la métonymie, oui, j'entends le raisonnement, mais un des intervenants de ce débat avec lequel je me sens le plus proche, c'est Sébastien Van Ruggenbroek sur cette dimension. Vous ne pouvez pas juste dire que comme la conséquence est dans la Constitution, alors ça veut dire que la reconnaissance est dans la Constitution. Ça n'est pas suffisant pour pouvoir s'en satisfaire. Il faut, en termes de lisibilité, en termes de transparence, en termes de prévisibilité, que chacun sache dans quel jeu on joue. Et donc, il faut, outre le financement, la reconnaissance, mais aussi les critères objectifs de reconnaissance, soient constitutionnalisés. Enfin, le volet historique du pourquoi il y a une exception que moi je qualifie de paradoxale sur le cours de morale non confessionnelle dont les enseignants sont directement choisis par la communauté française et dont le contenu est élaboré par la communauté française. Oui, j'ai tendance à me limiter au cadre purement juridique. Je n'omets pas l'histoire, mais je dis que l'histoire n'est pas une raison pour rester bloqué à un certain stade. Sinon, on pourrait dire la même chose des règles protocolaires. Les règles protocolaires s'inscrivent aussi dans une certaine histoire. Et donc, on pourrait s'en satisfaire et dire que C'est le produit de notre histoire en tant qu'État. Pourquoi donc changer les règles protocolaires? Donc, le cardinal de Belgique peut rester en première position, le nonce apostolique peut rester en deuxième position, les représentants, entre guillemets, des autres cultes peuvent rester en 73e position. Cet argument, on peut le généraliser à l'ensemble des dimensions de ce débat. Je fais le pari de ne pas aller dans cette voie et qu'on puisse tenir compte de l'histoire, mais en améliorant pour aujourd'hui et pour l'avenir la consistance du plat. J'en reviens, j'aime beaucoup cette métaphore.
Oui, je vous en prie. Oui,
je ne suis pas juriste, professeur, rien de tout ça, je suis plutôt citoyen. D'autres questions sur le vivre ensemble. Et quand vous dites la laïcité des codes politiques, je ne peux pas m'empêcher de penser que tous les débats éthiques ne sont pas neutres. Donc on ne peut pas dire que l'aspect religieux, c'est uniquement le culte ou la gestion du culte, c'est aussi tout un. Conception de vivre ensemble, et puisque par exemple les questions de du mariage, du mariage sexuel, de l'euthanasie, des médicaments, etc. Donc, est-ce que l'État ne devrait pas organiser, et on peut faire aussi au niveau de l'enseignement et des cours de citoyenneté, le débat à partir de ces questions-là. Et à ce moment-là, on créerait de l'histoire et du vivre ensemble. Et la sous-question, c'est que de toute façon, l'État a quand même créé un organe qui permet de discerner entre une religion et une secte.
Je vais commencer par la seconde question. Il y a effectivement, et le hasard des initiales, est-ce qu'il est un organe qui s'appelle CIA-OSM, qui est chargé effectivement de suivre ce qu'on appelle les organisations sectaires, et d'apprécier en quelque sorte ce qu'est une organisation sectaire nuisible ou non nuisible. C'est un point que j'aborde dans mon livre aussi, et je remarque la chose suivante. Certes, il existe le CIA-OSM, mais le CIA-OSM n'a pas de pouvoir normatif. Il n'a pas un pouvoir contraignant, il n'a pas un pouvoir de police, il n'a pas un pouvoir d'édicter des règles qui pourraient avoir des conséquences pratiques immédiates. Alors, je précise que ça n'en fait pas pour autant quelque chose d'incritiquable à mes yeux. J'ai entendu le propos du professeur Leroy. On peut effectivement considérer à titre personnel que certaines convictions sont plus fréquentables que d'autres, certaines sont plus dangereuses que d'autres. Je considère néanmoins que ça n'est pas à l'État, et ça n'est pas le rôle de l'État, de distribuer aux uns des étiquettes de religiosité et aux autres des étiquettes de sectarisme. Je considère que ça aussi, ça fait partie du principe de séparation Église-État. J'en vois certains qui ne sont absolument pas d'accord, c'est votre droit le plus absolu. Je considère que ça n'est pas le rôle de l'État. Parce qu'à quel moment pouvons-nous objectivement décider quels sont les critères à partir desquels on est fréquentable ou on ne l'est pas? En revanche, et c'est pour ça que je considère que dans notre état de droit, nous ne sommes pas démunis, il y a une législation antidiscrimination. Il y a une législation qui interdit l'incitation à la haine, à la violence et à la discrimination. Il y a des infractions pénales qu'on appelle la calomnie, la diffamation. Il y a toute une série de dispositifs qui permettent à notre état de droit démocratique de se protéger contre des pratiques. Mais pour autant, je considère que ça n'est pas à l'État à décider qui est secte, qui est religion. Ça n'est pas sa mission.
Vous évitez c'est des questions éthiques
du. Oui, mais j'y viens. Ça, c'est la seconde question. Mais je comprends de ce que vous dites que je suis un peu long. Je vais essayer d'être un peu plus bref. Pour moi, la laïcité, c'est un principe qui permet aux différentes convictions philosophiques de coexister. Mais ça permet aussi, par voie de conséquence, aux différentes communautés convictionnelles de donner leur avis sur toute une série de sujets, d'enjeux, de débats de société. Je ne suis pas en train de dire que sous prétexte que les institutions religieuses ne peuvent pas s'improviser parlement, elles n'ont pas droit de citer sur quelques questions que ce soit dans les enjeux et les débats de société. Je rejoins en l'occurrence Paul Lowenthal qui tient le même raisonnement lorsqu'il dit que dans le débat démocratique, les institutions religieuses ont toute leur place. Mais ça n'est pas aux institutions religieuses à s'improviser parlement et à édicter les règles de vie communes, c'est ça que je dis. Mais indépendamment de ça, bien sûr que ces communautés convictionnelles, comme n'importe quel groupe de la population, ont toute latitude pour s'intéresser, débattre, interpeller, rythmer l'actualité, s'exprimer sur des enjeux de société. Et on en revient au bout du compte à la mission mère, celle du Parlement, d'édicter au bout du compte les règles qui seront d'application. Et là, je signale que la Cour européenne des droits de l'homme veille à la bonne application de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Cour constitutionnelle veille à la bonne application de la Constitution, et qu'il y a donc des garde-fous pour permettre que ces débats éthiques ne fassent pas main basse sur les droits et libertés fondamentaux, que les débats éthiques se fassent dans le respect des droits et libertés fondamentaux. Encore une fois, il ne faut pas réinventer la roue, ça existe.
Vous opposez les deux, c'est ça qui se prend. Le débat éthique, c'est quand même la règle, c'est quand même ce qui va déterminer un jugement aussi.
Mais je vois quelle est la difficulté. Je dis simplement qu'il y a une différence entre avoir une conviction personnelle et l'exprimer, et vouloir que sa conviction personnelle soit traduite dans une loi. Ce sont deux choses qui sont fondamentalement différentes. Et un état de droit démocratique, c'est un état qui repose sur la règle de la majorité, mais dans le respect des droits et libertés fondamentaux des groupes minoritaires. Encore une fois, ce sont des garde-fous qui existent et qui permettent le débat dont vous appelez vos voeux.
Monsieur, et puis Werner de Sagre.
J'avais trois questions qui viennent aussi de quelqu'un qui n'est pas du tout juriste. Une question technique, une question politique et une question polémique. Question technique, c'est les améliorations que vous mettez en avant, sans plus, selon leur protocolaire ou leur rôle du tédium. Est-ce que pour améliorer ça, est-ce qu'il faut passer par une révision de la Constitution, ou est-ce que ça peut se faire dans des lois ordinaires ou plus des règlements ordinaires? Question technique. La deuxième question politique rejoint un peu ce que mon voisin disait. Non-ingérence réciproque, avez-vous dit, de l'État et des cultes. Dans le débat politique, il est évident que moi, en tant que, par exemple, chrétien ou musulman, je peux dire, je souhaite que la loi qui s'élabore, que la décision qui va être prise aille de sens dans ce sens-ci ou de sens dans ce sens-là, parce que ma conviction philosophique est telle. Est-ce que vous admettez aussi qu'un représentant officiel d'un culte dise, en tant que cardinal, en tant que grand rabbin, je voudrais que la loi aille dans ce sens-ci ou de ce sens-là? Est-ce que cela n'est pas d'une personne, mais d'une institution, d'un culte reconnu, une espèce d'ingérence. C'est bien que le culte catholique a eu une grande influence dans l'histoire de l'élaboration, ou plutôt de la non-élaboration des lois dans notre pays. Et troisième question, plus polémique, moi, quand je suis venu dans cette université à 18 ans, j'ai découvert un peu le principe du libre examen, de la laïcité. Pour moi, laïcité, à ce moment-là, c'était synonyme de tolérance. Les paroles de Voltaire, mais pour moi, c'était ça, je débarquais de ma province natale. Et aujourd'hui, 45 ans plus tard, avec un peu de tristesse, j'ai l'impression que les manières de penser que je partageais, la laïcité, est devenu synonyme d'intolérance. Je vois des gens, des radicaux, laïcs, qui ont des positions qui me paraissent intolérantes. C'est plus vrai en France qu'en Belgique aujourd'hui, mais ça m'attriste un peu de voir des gens qui, au nom de ce qu'ils appellent, eux, la laïcité, prônent des positions qui sont dans le rejet de l'autre, dans obscurantiste et essayer de vous en libérer, mais on n'a pas le droit de dire telle ou telle personne, parce qu'elle croit en ceci ou en cela, est quelqu'un qu'il faut discriminer. Et je sens, effectivement, dans certains, et je vais oser la polémique jusqu'au bout, laïcards, une volonté de discriminer des personnes parce qu'elles croient en une foi ou en une autre.
Vous n'étiez donc pas obligé de répondre à la troisième question.
Est-ce un conseil ?
Non, non, je ne suis pas sûr que ce soit vous qui êtes le plus directement interpellé par cette question.
Mais je vais y répondre quand même.
Oui, allez-y.
Est-ce que j'observe également qu'à l'heure actuelle, mais depuis un certain nombre d'années en réalité, la laïcité est instrumentalisée à des fins d'exclusion et de discrimination? Oui. Je ne crois pas pour autant que ce soit polémique de faire cette observation. En revanche, il peut y avoir des désaccords. Certains considéreront que la laïcité implique la non-visibilité des pratiques convictionnelles, notamment dans l'enseignement. Cela se traduirait par l'interdiction du port de signes convictionnels, puisque, soyons clairs, c'est toujours ou presque à travers ces questions-là que ces débats de société sont menés. C'est un point de vue que je ne partage absolument pas, en effet. Je considère que la laïcité est intimement liée à la liberté et à la liberté religieuse. La laïcité n'a de sens que si elle produit de la liberté religieuse. Pour autant, bien évidemment, il ne faut pas réinventer la roue. Il suffit de lire l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, paragraphe 2, pour constater que la liberté religieuse, encore une fois, peut être limitée en vertu d'une série d'objectifs légitimes. L'exemple le plus clair étant que je ne peux pas, sous réserve d'utiliser ma liberté religieuse, violer la vôtre. Parce que un des objectifs légitimes en vertu desquels on peut limiter l'exercice de cette liberté, c'est qu'à un moment donné, si l'exercice de ma liberté équivaut à violer la même liberté dans votre chef, c'est qu'il y a une rupture du principe d'égalité, de non-discrimination et de liberté. Donc, à côté des limites qui peuvent encadrer le principe de liberté religieuse, j'observe moi aussi qu'on va loin et de plus en plus loin et de plus en plus trop loin dans les limites qu'on est en train de mettre en place et qui, selon moi, dénature le principe qu'est la liberté religieuse, qui doit en principe être interprété de façon extensive. Le principe, c'est la liberté, et les exceptions, comme leur nom l'indique, doivent demeurer exceptionnelles. Aujourd'hui, dans une série de cadres, on a l'impression que le principe est devenu l'exception et que les limitations sont devenues la règle. Donc je ne suis pas fort éloigné de cette pensée que vous avez exprimée. Les règles protocolaires, dans le livre que j'y ai consacré, je fais certaines propositions et celles-ci, je ne les ai pas inventées. Il y avait en 2007 une proposition de loi déposée au Sénat tendant à réaffirmer la séparation entre l'État et les institutions religieuses. D'ailleurs, quand j'avais à l'époque pris connaissance des dispositions de cette proposition, il y avait énormément de dispositions avec lesquelles j'étais parfaitement d'accord, que j'aurais pu signer des deux mains. Notamment des dispositions sur la réorganisation des règles protocolaires. Est-ce qu'il faudrait une loi pour revoir ces règles protocolaires ? Dans le livre, j'explique que ça n'est pas nécessairement à travers une loi que ça doit être fait, ça peut parfaitement être à travers un arrêté royal, pour la simple et bonne raison que les règles protocolaires touchent aussi, pour une bonne partie, aux prérogatives du roi, dans le cadre institutionnel qui est le nôtre en Belgique. Mais quelque part, ça n'est pas tellement cette question qui est la plus primordiale pour moi. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est un arrêté royal? C'est le principe qui doit être revu. C'est le principe... C'est le fait que l'histoire ne peut pas devenir l'excuse pour ne pas revoir des choses qui devraient l'être si l'on veut être plus respectueux du principe de laïcité. Après, quelle est la norme qu'on adopte? Ça me paraît être légèrement secondaire. Est-ce que, pour le dire très clairement, est-ce que aujourd'hui ou hier, Monseigneur Léonard pouvait publiquement donner son avis sur des débats de société? Cela dépend comment il le dit. Cette affaire de nuance, il n'y a pas de réponse catégorique. Si le propos consiste à dire « il faut changer la loi et la loi doit être dans ce sens-là », je considère qu'il y a une ingérence. Parce que c'est s'improviser, ne fût-ce que symboliquement, législateur. En revanche, si c'est donner son avis apostolique sur ce débat de société qui ne concerne pas moins les catholiques que n'importe quel autre groupe de la population au sein de notre société, il pourrait parfaitement donner son avis sur le phénomène éthique lui-même. Pour moi, c'est affaire de nuance. Ça n'est pas le réduire au silence sous prétexte qu'il a le rôle qu'il a, mais c'est aussi être vigilant par rapport à la teneur du propos qui est véhiculé. Et encore une fois, c'est pour ça que je donne cet exemple. Si Monseigneur Léonard, et il a abondamment à l'époque joué sur cette ambiguïté, sous couvert de donner son avis, c'est appelé de ses voeux un changement de la loi, il y a clairement quelque chose qui doit susciter la vigilance.
Merci. Il y a Werner de Sagre, et puis encore deux personnes, ce sera sans doute tout. On va voir.
Je félicite M. Saïdine pour son discours, et aussi pour le courage de dire dans cette institution que la Belgique est un État fondamentalement laïque, et ça, il faut quand même être courageux pour le dire. Et ça, je respecte très, très fortement. Je suis d'accord avec vous quand vous analysez la France. C'est une belle analyse. Néanmoins, elle a déjà été faite, on le sait depuis des décennies, mais c'est quand même bien de clarifier encore une fois ça. Le protocole aussi, je suis d'accord avec vous. Néanmoins, je vais juste, je ne vais pas commencer un débat, j'aimerais bien d'ailleurs, mais je vais juste poser une petite question. Tout d'abord, la séparation des Églises et de l'État, vous dites, c'est la non-ingérence réciproque. On est quand même depuis quelques décennies dans la jurisprudence en Europe, et aussi par exemple dans la Cour suprême américaine à Washington, loin de là. On parle ici d'une suprématie des lois de l'État. Bien évidemment, on peut limiter la liberté religieuse, tout comme on limite la liberté d'expression, comme vous l'avez ici dans vos réponses signalées. Donc ça, je pense que là, il y a quand même une petite question à débat. Les ingrédients pour une laïcité, c'est l'égalité et la non-discrimination. Je me pose la question alors, en reconnaissant ou en finançant certains. Est-ce qu'il n'y a pas à la base une non-discrimination? Vous dites oui, il faut améliorer ça. Et je vais le dire avec attention, hein, je respecte votre point de vue. Mais l'établissement des critères de reconnaissance, n'est-ce pas une discrimination déjà là? Parce qu'on va reconnaître à travers certains critères, par exemple, en 2006-2007, j'ai travaillé sur ce dossier, on a dit 20 000 personnes. Il faut 20 000 croyants pour reconnaître. Pourquoi 20 000? Pourquoi pas 18 000, 19 000? Est-ce que là, il n'y a pas de discrimination? Est-ce que là, il y a vraiment égalité selon votre perspective politico-philosophique? Et alors, ma question est la suivante. Vous me dites au niveau des sectes, ce n'est pas à l'État d'établir des critères pour dire si cette secte est visible ou si c'est une secte ou un culte ou une religion. Mais vous êtes bien d'accord, apparemment, à un autre moment de votre discours, de dire « Ah, mais on va quand même établir des critères pour en reconnaître et en financer d'autres. » Donc, le rôle fondamental de l'État, c'est-à-dire de protéger les citoyens de certains sectes, parce que la religion, c'est pas une force positive, il y a des côtés négatifs aussi, il faut aussi le dire. Là, vous dites « Non, ça, l'État, il ne faut pas trop s'y mêler, mais on va quand même s'y mêler en reconnaissant certaines autres religions et en les finançant. » C'est une petite question, pas pour vous pour le débat, mais voilà.
Bien. Mon exposé se limite à la Belgique. Je voudrais juste le rappeler. Le phénomène qu'on peut observer aux États-Unis, qui est dans une toute autre réalité, nous emmènerait vers un autre débat. En revanche, il est plus pertinent, de mon point de vue, d'inscrire le débat belgo-belge dans le débat européen, parce que tout est lié, évidemment. La structure de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, tout ça fait qu'il y a des interconnexions. On ne peut pas simplement dire « moi je parle de la Belgique, ça c'est autre chose, et puis on en discutera ailleurs ». En revanche, ce que j'observe aussi, je ne suis pas le seul, c'est que sur des questions liées à la liberté religieuse. Parce que c'est vrai que c'est vraiment le nœud du débat. Vous le savez aussi bien, sans doute, donne lieu à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'est absolument pas généralisable. Pour le dire plus clairement, puisqu'il n'y a pas que des juristes ici, la Cour européenne des droits de l'homme, étant une cour intergouvernementale, il faut commencer par acter cette réalité, sur des questions délicates comme la liberté religieuse, utilise depuis de nombreuses années, c'est une jurisprudence établie comme vous le savez, le mode opératoire en termes de raisonnement suivant. Ce sont des questions délicates. Moi, Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis pas en situation de pouvoir édicter une réponse généralisée, transcendantale presque, qui s'appliquerait à tous les États signataires de la Convention dans le cadre de laquelle j'agis. C'est la raison pour laquelle, lorsque un État est invité à se présenter devant moi parce qu'il y a une contestation, l'arrêt que je rends concerne la réalité politico-juridico-philosophique historique de cet État-là. Ça n'est pas anodin et anecdotique. C'est ce qui m'amène, moi, à dire que le jour où la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sera véritablement éclairante pour les débats belgo-belges, c'est lorsque, depuis la Belgique, la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie. Comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore été le cas sur ces questions. Il y a peut-être une question très polémique qui bientôt sera le précurseur d'une nouvelle dynamique peut-être, c'est la question du port du voile intégral. Comme vous le savez, la Cour constitutionnelle belge a avalisé la loi d'interdiction et donc on est en train, il y a un processus de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu un arrêt dans le dossier français, mais je sais parce que je suis ce dossier que ça n'a pas empêché la Cour européenne des droits de l'homme d'examiner malgré tout le recours depuis la Belgique. Donc il y a fort à parier que depuis la Belgique, il y aura aussi, selon toute vraisemblance, une décision en cette matière. Et donc finalement, ce qui paraît très éclairant ne l'est pas beaucoup. C'est pour ça que je suis de ceux qui considèrent qu'il faut véritablement revenir vers le cadre belgo-belge. C'est un premier élément. Deuxième élément, décentrons-nous juste un instant. Donc c'est vrai, on a une discussion sur le principe de laïcité, neutralité, etc. Décentrons-nous un instant vers un secteur que je connais très bien, c'est ma pratique professionnelle qui m'y oblige, c'est le secteur de la culture. Comme vous le savez, une série d'associations culturelles bénéficient de subventions par l'État, sur la base d'une série de critères. Est-ce que les associations culturelles qui ne remplissent pas ces critères sont discriminées ou pas ? En d'autres termes, est-ce que la simple existence d'un filtre en vertu duquel on finance plutôt certains au détriment d'autres est en soi la démonstration qu'il y a une discrimination ? Je n'en suis pas certain. Parce que sinon, le raisonnement que l'on tient ici, il devrait être généralisé à l'ensemble des secteurs de la société où il y a intervention des pouvoirs publics dans le fonctionnement et les activités d'association. Et les associations ne sont pas que culturelles, elles sont aussi culturelles, elles sont aussi environnementales, elles sont aussi dans la protection des consommateurs. Donc je pense que ça n'est pas ça l'argument massu pour démontrer qu'il y a une discrimination. En revanche, c'est pour ça que j'en reviens à mon fil conducteur, on peut considérer que le club actuel des Happy Few qui ont bénéficié de la reconnaissance est un club restrictif. Est un club qui aujourd'hui, sociologiquement, ne serait-ce que sociologiquement, est critiquable parce qu'il y a d'autres groupes, d'autres tissus au sein de la population qui pourraient, sur la base de ces critères administratifs qui se sont dégagés de la pratique du gouvernement, prétendre à une reconnaissance. Mais c'est ça que j'appelle de mes voeux.
Puis il reste à savoir, juste une fois, il reste à la question fondamentale, tant qu'on a des enfants pauvres dans notre pays, est-ce qu'il faut vraiment payer les salaires de l'État ?
Oui.
Peut-être vous. Oui, il y a trois personnes qui demandent encore la parole, mais on n'aura peut-être pas le temps de les prendre toutes. Patrick Goffaut, en tout cas.
Oui, voilà. Je voudrais en revenir au port des signes d'expression de conviction religieuse par des agents publics. Vous savez qu'il y a un principe général de droit qui s'applique à l'administration active, qui est le principe d'impartialité. Vous savez aussi qu'il suffit qu'il y ait une apparence de partialité pour qu'une juridiction puisse conclure à la violation de ce principe. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que, hic et nunc, aujourd'hui, dans la société belge, un citoyen ordinaire n'est pas légitimement fondé à penser qu'il y a là une apparence de partialité s'il voit son dossier traité par quelqu'un qui porte de manière ostentatoire un signe d'appartenance à une conviction religieuse ou philosophique.
Et c'est ma question continuant en fait, la question de M. Goffaut, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une distinction entre le port du signe religieux dans la sphère publique et au sein des institutions publiques précisément, qui sont en contact avec les citoyens.
Sphère publique au sens de l'espace social.
Ouais, au sens de l'agora, en fait.
Oui, et la sphère des pouvoirs publics. Oui.
Parce que je trouve que dans la réponse que vous aviez apportée, vous avez un peu évacué en disant d'emblée qu'il n'y a pas d'apparence de neutralité. Et or, je trouve que la question est sur laquelle vous comptez.
Au risque de te décevoir, je vais commencer par rappeler que selon moi, il n'y a pas d'apparence de neutralité. On pourra être désaccord sur notre désaccord. Là-dessus, je fais mien le raisonnement de Sébastien Van Roggenbroek. Donc, si il y a un désaccord, sachez que vous êtes aussi en désaccord avec lui. Sébastien Van Roggenbroek dit la chose suivante. Il dit, admettons que dans notre société, il soit recevable de considérer que l'agent public doit être restreint dans son apparence parce qu'il y a finalement, disons-le, une crainte que l'agent pourrait être partiel. Parce que fondamentalement, c'est à cette crainte essentielle que ce débat-là renvoie. Et Sébastien Van Roggenbroek dit, certes, partons de ce postulat. Et il dit, mais pourquoi s'arrêter au visible, en ce cas ? Dans notre société du 2.0, on peut largement savoir qui pense quoi de quoi, autrement que par l'apparence de cette personne. Il suffit que la personne ait un compte Twitter et une page Facebook. Il publie des choses publiques pour qu'on sache très exactement ce que cette personne pense de tel ou tel sujet de société. Et on pourrait être dans la position du citoyen qui apprendrait que le fonctionnaire au guichet de l'administration de sa commune a tel ou tel point de vue sur tel ou tel sujet et considère que là, il y a un risque de partialité. Et considère que là, le principe de neutralité, il est rompu. En d'autres termes, où s'arrête la légitimité de la crainte de la partialité ? D'une part. D'autre part, je continue à penser que il n'y a pas quelque part quelqu'un qui a l'autorité et l'objectivité pour décréter ce qu'est une apparence neutre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut s'estimer être au-dessus des contingences de la mêlée et être complètement émancipé de toute forme d'histoire, de culture, d'éducation, de parti pris, de stéréotypes. Et ça, c'est l'apparence neutre. Je pense que ça n'existe pas. Et je pense que si on se base sur quelque chose qui est inobjectivable, alors chacun va essayer d'imposer à l'autre sa propre conception de ce qu'est l'apparence de neutralité. Et donc c'est un argument pour cette raison-là, auquel je n'adhère pas. Oui, je vais renchérir sur cet élément. Donc le professeur Leroy parle de signes ostentatoires. Alors on pourrait parler de signes ostensibles, de signes visibles. On retrouve de tout dans les décisions de jurisprudence, dans les règlements d'ordre intérieur des établissements. Encore une fois, qui décide ce qui est un signe ostentatoire ?
C'est un principe général.
Oui, je sais. Oui. Mais oui, oui, non. Mais en amont, il y a surtout une autorité administrative qui décide que tel ou tel signe est un signe ostensible ou pas.
Un signe est ostensible,
oui,
par définition.
Mais vous savez tout aussi bien que moi, je parle sous votre contrôle, qu'il y a autant de décisions diverses sur le niveau auquel on place ce qu'est un signe ostensible ou pas. Vous connaissez ces décisions mieux que moi. Il n'y a pas une et une seule forme de jurisprudence sur la définition qu'il faut donner au signe ostensible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a des décisions qui partent dans tous les sens. Alors on pourrait s'adosser à ça et dire, ben oui, on va malgré ça laisser le juge au cas par cas, au gré de décisions variées, diverses, décider. Mais moi je fais le pari d'en revenir au dénominateur commun, celui qui serait véritablement objectivable. Je le dis et je vous remercie parce qu'on pourrait évidemment continuer ces discussions longtemps sur ce désaccord.
Bien, il est très exactement 19h et j'avais annoncé qu'on arrêtait à 19h. Je me frustre parce que j'avais 3 objections à faire, mais je m'abstiens de les faire.
Ça n'est que partie remise.
Ça n'est que partie remise. Désolé pour les personnes qui auraient eu éventuellement l'envie de poser une ultime question, mais je crois qu'on doit aussi être à un moment raisonnable et le débat n'est de toute façon pas clos. Encore merci pour la qualité de votre investissement intellectuel dans toutes ces questions. Et encore une fois, merci pour votre participation.